France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Aujourd'hui, il y a des dessins de plantes dans les livres du Book Club. Il y a des touches d'aquarelle sur des croquis effectués en promenade. Il y a des histoires de jardins, de bouquets, de fleurs qu'on ne cueille pas, de massifs qu'on réimagine. À chaque saison, il y a des histoires de lumière, évidemment, des paysages et des souvenirs. Marie Varenne et Lucille Chapsal sont nos invités pour évoquer leurs deux livres, pratiques, mais pas que. Vers 15h50, chaque mercredi, nous avons rendez-vous avec Mathilde Wagman dans sa chronique Lecture Jeunesse. Elle évoque aujourd'hui un livre qui parle de la façon dont on fabrique une histoire. En fin d'émission, vos trouvailles de lecture sont à l'honneur. Elles nourrissent le grand jeu des pages musicales et on se quittera en chanson. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bienvenue à vous, Lucille Chapsal.
Bonjour Marie Richeux.
Le livre Fleurs sauvages apparu aux éditions Tana, on en parlera tout de suite, tout à l'heure. Bonjour Marie Varenne.
Bonjour Marie.
Votre livre Fleurir votre jardin et composer ses bouquets, apparu aux éditions First. Alors ici, tout commence d'habitude par un questionnaire de lecture. Il se trouve qu'on a eu un petit peu envie de le pimper côté jardin et côté fleurs pour vous faire honneur. Est-ce que vous vous souvenez d'un livre, d'un premier livre lu pendant l'enfance où il y avait des histoires de plantes, d'arbres, de fleurs, quelque chose en rapport avec ce qui vous occupe vous aujourd'hui, Lucille Chapsal?
Oui, tout à fait. Je me souviens de deux livres qui m'ont vraiment touchée. Alors le premier, je pense que personne d'autre que moi ne le connaît. Il s'agissait en fait d'une sorte de roman photo créé par ma grand-mère qui avait mis en scène mon cochon d'Inde de l'époque, qui s'appelait Gabriel, au milieu des fleurs du jardin.
Wow.
Et donc, Gabriel était tantôt au milieu des pensées, tantôt au milieu des cyclamens, tantôt au pied des rosiers. Et mon grand-père avait calligraphié toute une histoire de Gabriel se promenant dans le jardin.
Et alors, donc, ce livre, il s'appelait comment ? Gabriel au jardin.
Sans doute, je ne me souviens pas et je l'ai malheureusement égaré, donc je suis assez...
Mais il existe désormais, il sera à l'INA, parce que vous l'avez évoqué à la radio, Lucille Chapsal.
Tout à fait.
Il y avait déjà le nom des fleurs ?
Il y avait le nom des fleurs, oui, oui. Il y avait le nom des fleurs du jardin de mes grands-parents, ouais.
Vous évoquez un deuxième livre ?
Oui, tout à fait. Un roman qui est pour un roman pour enfants, qui est un peu plus connu, c'est Tistou les pouces verts,
bien sûr,
de Maurice Druon. Que j'ai dû lire, je pense, vers 8 ans, 9 ans, à l'âge où on commence à lire les premiers romans, et qui m'a vraiment touchée. Et ça reste encore pour moi un livre fondateur qui m'a vraiment imprégnée d'une passion pour le végétal, je crois.
Je suis heureuse que vous l'évoquiez, parce que je pense que c'est mon plus ancien souvenir de lecture. C'est aussi un livre que je chéris. Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que vous pourriez raconter un petit peu ce qui arrive à Tistou les pouces verts ?
Oui, bien sûr. Alors, de souvenir, c'est un petit garçon qui vit dans une maison bourgeoise et dont les parents sont très occupés, donc il a assez peu d'attention de la part de sa famille et il passe le plus clair de son temps avec le jardinier Moustache et son poney qui s'appelle Gymnastique. Et un matin...
Déjà, ça, c'est quand même cadeau.
C'est exceptionnel en soi. Et puis, en faisant un peu de jardinage avec le jardinier Moustache, il s'aperçoit qu'il a des pouces verts, c'est-à-dire que tout ce qu'il touche pousse, mais de manière absolument magique. Donc, il suffit qu'il applique ses pouces sur la terre et sur des graines pour que les graines s'élèvent et se transforment en un clin d'œil, en de gigantesques tournesols ou je ne sais quoi. Et il va se servir de ce pouvoir pour fleurir la ville, fleurir l'hôpital avec une petite fille très triste qui n'a pas de vue sur l'extérieur.
Donc, qui il redonne un peu la joie de vivre.
Tout à fait. Il fleurit des canons, je crois, pendant une guerre. Enfin, c'est très tendre et...
Et c'est même un peu, en tout cas moi ça m'avait aussi laissé l'idée d'un petit pouce, des pouces verts très, Tistou aux pouces verts pardon, pacifiste. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu politique dans l'usage de ces fleurs-là.
Tout à fait, je pense que ça a une vision bien plus large que... Oui.
Est-ce que vous vous souvenez, Marie Varenne, d'un premier livre lu en rapport avec les arbres, les plantes, les fleurs ?
Non, moi je me souviens pas malheureusement d'un premier livre, mais par contre je me souviens des catalogues, des catalogues de grands arbres que mon père laissait traîner chez nous car il était pépiniériste. Et donc, c'est plutôt comme ça que j'ai découvert.
Ça ressemblait à quoi?
Oh, c'était pas très joli, hein. C'était le graphisme n'était pas top. C'était un abécédaire de catalogue de fleurs. Et il y avait des noms bizarres. Il y avait A comme amélanchier, L comme liquide en barre. C'était des noms très étranges. Et c'est un petit peu comme ça, moi, que j'ai mes premiers souvenirs d'arbres. Et plus tard, adolescente, c'était pareil, des premiers livres plutôt pas romans. C'était des livres qui nous présentaient les jardins de fleurs anglais.
Ah oui, pourquoi? C'était quoi comme genre de livre?
Ça, c'était des livres de visites de jardins anglais. Ça, c'était plutôt du côté de ma mère. C'est ça qu'elle appréciait, qu'elle aimait beaucoup, qu'elle chérissait.
Et vous, adolescente, vous lisez ça?
Je les voyais traîner, je les regardais de loin, mais je ne rentrais pas complètement dedans. Ça commençait à m'attirer. Ouais. En tout cas, je m'en souviens très bien.
On parle de vos lectures. Est-ce que vous sauriez faire, vous, un parallèle entre le fait d'être lectrice, de lire des livres, et le fait d'avoir votre jardin, d'être des personnes qui cueillaient souvent, qui vous promenaient souvent? Est-ce que vous feriez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des liens entre ces deux pratiques-là, Lucile Chapsal?
Je pense qu'il y a des liens, effectivement. Pour moi, un lien, c'est la notion du temps. C'est-à-dire que autant pour faire un jardin que pour apprécier une œuvre littéraire, il faut vraiment accepter de prendre le temps. Et je pense que les œuvres qui nous ont vraiment marquées, elles continuent d'infuser en nous dans le temps long. C'est-à-dire que c'est pas seulement le temps de la lecture, c'est le temps de digérer l'œuvre, etc. Et je crois que c'est Gilles Clément qui dit que pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l'éternité. Et c'est vrai. Et je crois que on peut pas faire un jardin si on veut que tout aille vite, parce que de fait, les plantes mettent du temps à s'installer. On désherbe, puis quand on revient, en fait, il faut tout recommencer parce qu'il a plu pendant 2 semaines.
Et très bien.
En fait, on est dans un monde où tout s'accélère, et c'est vrai que autant pour la lecture que pour le jardin ou même les cueillettes.
C'est presque voler du temps à un rythme de vie qui demande à ce que les choses aillent vite. Vous aussi, Marie Varenne, ce serait le temps, le rapport entre lire des livres et prendre soin d'un lot de terre?
Moi, ce serait pas forcément le temps. J'ai fait, moi, un parallèle avec la lecture de paysages, plutôt. Ce serait plutôt, moi, je verrais plutôt l'idée de s'asseoir, de se poser, d'observer et de voir si on ressent ou pas quelque chose à la lecture du paysage ou du bout de terre qu'on a envie de transformer en jardin. Et est-ce que la lecture d'un livre, ce serait pas aussi un petit peu ça? On s'assoit, on lit, on découvre et ça, l'histoire nous parle ou pas.
Et ça vaut pour votre jardin ou ça vaut aussi pour tous les paysages que vous rencontrez, Marie Varenne, cette possibilité de lire?
Ça se voit dans tous les paysages. Ça se voit dans tous les paysages et derrière, d'ailleurs, il y a un petit jeu rigolo. Je ne sais pas si tu connais ça, Lucile, mais c'est le jeu de lecture du paysage qu'on peut faire en binôme.
Ah non, je ne connais pas.
Et ça, c'est mon passé d'animation avec des enfants.
On se place devant un paysage?
On se place devant un paysage en binôme. Et donc, une personne fait face au paysage et l'autre est derrière, ne voit pas ce paysage et a une planche et un crayon et une feuille blanche. Et celui qui voit le paysage lit le paysage. Et il y a l'autre personne derrière de dessiner ce paysage tel que l'autre le lui compte.
Oui, on aurait pu même imaginer un jeu du paysage en binôme avec deux personnes qui regardent, mais cette fois de face, le même paysage, et peut-être ne lisent pas la même chose. Il y a cette idée de lecture qui est très forte d'ailleurs dans vos deux livres, Marie Varenne. On ne voit pas toujours la même chose que les autres.
Non.
Lucile Chapsal, comment est-ce qu'on apprend à lire un paysage?
On apprend à lire un paysage... Alors j'aime pas bien ce mot, mais je vais l'employer quand même, en le décomposant, c'est-à-dire que un paysage c'est constitué de plusieurs plans, et donc du coup il faut être capable de distinguer ces différents plans. Et moi, j'ai l'impression qu'il faut aller du général au détail, c'est-à-dire que se rendre compte déjà de... On dit que le paysage, c'est là où la terre s'arrête et le ciel commence. Donc déjà, arriver à voir où est l'horizon, est-ce qu'on le voit, est-ce qu'il y a des montagnes, est-ce qu'il est caché. Et puis ensuite, on va aller petit à petit vers les motifs, c'est-à-dire des habitations, éventuellement des plantes, des arbres, et puis essayer de le décrypter.
Est-ce qu'il y a un livre que vous emportez volontiers dans votre poche en balade ou au jardin, Marie-Varenne ?
Alors je rigole parce qu'au jardin, j'adorerais avoir le temps d'emmener un livre, mais non, je n'emmène pas de jardin. Mais dans un, si je devais rêver, oui, il y en a. En tout cas, il y a un livre qui m'attend. C'est Manière d'être vivant. Je vois des big up cœurs en face de moi partout, de Baptiste Morisot. Parce que ça, je pense que s'asseoir dans son jardin, ou peu importe où on en soit, et essayer un petit peu de boire ses paroles, c'est déjà commencer à regarder différemment ce qui nous entoure, ne plus voir la nature comme un joli décor, mais vraiment comme quelque chose d'habité, d'être d'espèce vivante, comme nous, au même titre que nous. C'est insuffler beaucoup de respect et se mettre à la même hauteur que les autres espèces. C'est pourquoi pas partir au bout du chemin de ce jardin sur la trace du renard ou du sanglier. Enfin ça, c'est vraiment le livre, je trouve.
Qui vous attend. Le jour où vous aurez plus de temps.
Oui.
Est-ce que vous emportez un livre dans votre poche, Lucille Chapsal, pour travailler au jardin ou pour aller vous promener sur les chemins ?
Alors, quand je vais me promener, donc moi j'habite en Rhône-Alpes, je suis assez près des montagnes, donc je prends assez souvent le guide d'identification des fleurs de montagne.
Oui, c'est pour bosser quoi.
C'est pour bosser, ça reste du plaisir, mais en fait je suis toujours partagée entre le prendre, sachant qu'il est lourd, et quand je décide de ne pas le prendre, je le regrette. Donc je finis quand même par accepter de porter son poids, et puis je le consulte généralement.
Et c'est quoi ce livre alors ?
C'est un livre d'identification qui est aux éditions de la Chouet-Niesley et qui donc classe les plantes par famille botanique. Une fois qu'on connaît un petit peu les familles botaniques, ce qui est mon cas maintenant, je vais assez facilement à l'espèce. Et donc, voilà, je suis contente de savoir de quelle gentiane il s'agit. Et puis, je prends des photos aussi, etc.
C'est un peu un livre d'identification, celui que vous avez écrit, Les fleurs sauvages. C'est aussi, ça nous permet de nous exercer notre regard et peut-être nous aussi, peut-être un jour, avoir le livre qui est un peu plus petit que celui que vous décrivez,
oui,
dans la poche pour aller sur les chemins.
Tout à fait.
On va évoquer vos deux livres, Marie Varenne et Lucille Chapsal, juste après ça.
Observer les plantes, c'est très instructif. Elles survivent les plantes en milieu agressif. Elles cherchent la lumière en se transformant, s'allègent en s'amputant, puis se régénèrent. J'observe les plantes, c'est très instructif. Je suis comme une plante en milieu agressif. Je cherche la lumière en me transformant, m'allège en m'amputant, puis me régénère. Observer les plantes, c'est très instructif. Souviens-toi, tu me l'as dit, j'y repense souvent depuis. Assis dans le jardin, je regarde le jasmin. Oui, je le vois bien, me voilà jasmin.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À l'heure où on se parle, on est début octobre, c'est le début de l'automne donc, et votre livre Marie Varenne commence comme ça, par la douceur des températures, le plaisir d'être à nouveau dehors sans forte chaleur, les pluies normalement attendues et le ralentissement progressif de la vitalité de la nature qui aide les plantes à bien s'enraciner. Vous évoquez les petits matins brumeux sur la Camargue, les fêtes des arbres dans les villages et les cueillettes sauvages en promenade. Dans votre livre aussi, Lucille Chapsal, on apprend à vivre avec les saisons. En fonction d'elles, nous ne rencontrons pas les mêmes plantes sur les chemins, ni ne scannons d'un coup d'œil les mêmes paysages. Avec vous, on apprend à nommer ces plantes, à les préserver quand il faut ou à les cueillir. Vous l'aurez compris, votre book club du jour réunit deux livres qui vont par les chemins, qui imaginent des jardins, qui n'oublient pas les insectes quand ils taillent les arbres, qui inventent même des boucles d'oreilles avec du mimosa. Bref, deux livres qui vont avec le vivant. Lucille Chapsal, Fleurs sauvages, apparue aux éditions Tana dans la collection des Carnets du Scarabée. Marie Varenne, Fleurir son jardin et composer ses bouquets. Il y a même un sous-titre encore qui s'appelle Le Carnet de culture et de cueillette sauvage par Fleur d'Arles. Apparue, lui, aux éditions First, avec de magnifiques illustrations signées Clémentine Dupont-Avis et plein de photographies tout aussi belles signées Sophie Mouterer. Alors, je commence par parler des saisons. Et c'est très important, à la fois dans votre livre Marie Varenne, puisque ce sont carrément les chapitres, la saisonnalité, et dans votre livre Lucille Chapsal, elles sont tout le temps présentes, parce que c'est pas toujours les mêmes fleurs sauvages qu'on peut rencontrer sur les chemins. Qu'est-ce qui vous a appris à être sensible aux saisons, ou est-ce que c'était quelque chose dans votre éducation, dans votre formation, ou est-ce que c'est depuis votre pratique avec les fleurs, avec les plantes, que vous y êtes devenue extrêmement sensible, Lucille Chapsal?
Pour ma part, je pense que c'est venu avec la pratique, parce que c'est vrai que j'ai passé tous mes étés dans le Vercors avec mon grand-père et ma grand-mère à observer la flore. Donc en plein été, effectivement, les fleurs étaient magnifiques, etc.
Qui n'était pas qu'un passe-temps, on peut quand même dire que ce grand-père était biologiste.
Oui, tout à fait. Il était même entomologiste, donc spécialiste des insectes. Et puis, en fait, en me mettant à la cueillette et à la cuisine sauvage, je me suis intéressée aussi aux cueillettes, en fait, à d'autres saisons. Et c'est vrai qu'en recherchant les plantes, par exemple, au tout début du printemps ou à l'automne, je me suis aperçue qu'effectivement, elles n'avaient pas du tout le même aspect qu'en plein été. Que mince, mais où est la consoude? Ah, mais oui, c'est vrai, c'est une vivace, donc son feuillage disparaît. La bardane, c'est une bisannuelle, donc est-ce que c'est une première année? Est-ce que c'est une deuxième année? Et en fait, à chaque fois, quand on essaye de pister, on parlait de Baptiste Morisot qui les loups, de pister les fleurs pour suivre leur cycle, on se rend compte qu'elles
évoluent. On n'échappe pas aux saisons, en fait. On est obligé d'y penser et de se demander où est-ce qu'on en est dans le cycle.
Ouais. Oui, tout à fait.
De la même manière, Marie Varenne, quand il a fallu chapitrer le livre, c'était évident que vous en passeriez par les saisons, que les grands chapitres, ce seraient les quatre saisons.
Oui, c'était évident. Je ne me suis pas vraiment posé la question. Avoir un jardin, le penser, ça se fait forcément avec ce temps. Et d'où me vient ce rythme avec les saisons? Alors c'est peut-être un peu des deux pour répondre à votre question. C'est lié à l'enfance. Je pense que j'ai été marquée par des moments forts, des souvenirs forts selon les saisons. Ça peut être tout bêtement la couleur des feuilles des arbres qui changent, les champignons qu'il faut aller ramasser, des souvenirs comme ça très très basiques mais forts. Et puis effectivement, quand on fait son jardin, si on commence en se disant bon allez je vais planter au printemps, c'est parti, et ben on se rend compte que ça ne marche pas parce que derrière l'été va être très chaud, les plantes n'auront pas eu le temps de s'enraciner, vous allez tout rater. Et donc il faut prendre du recul, et il faut la nature nous force à aller à son rythme. Et c'est assez extraordinaire.
Comment ça s'apprend d'aller au rythme de la nature? On parlait tout à l'heure de la possibilité de lire les paysages. Est-ce que on apprend à lire les saisons? Est-ce qu'on apprend les besoins d'un jardin? Peut-être on peut dire que vous n'êtes pas du tout dans le Vercors, mais vous êtes vous oui. En Camargue, Marie Varenne. Je sais pas comment vous avez commencé l'histoire de ce jardin.
Moi, je pense que les saisons, déjà, on les subit, dans le sens où pas la peine de lutter contre elles. Il faut vraiment faire avec elles. Comment j'ai commencé ce jardin? D'abord par un long moment d'observation du terrain qui allait devenir un jardin. Au début, je ne savais pas que ce terrain allait devenir mon jardin.
Concrètement,
mon
c'est
jardin.
Quoi? C'est un pré?
C'était un pré. Voilà. C'était un pré bien plat.
C'est important que ce soit plat ou pas?
J'aurais préféré que ce soit un petit peu vallonné pour qu'on joue un peu avec des points de vue et des paysages plus marrants. Mais non, c'était bien plat et rien du tout. Et donc d'abord un long moment d'observation, de voir, et pas que sur place, hein, il faut se déplacer dans sa région pour voir quels sont les arbustes qui se portent bien, lesquels vous plaisent. Identifier effectivement le sauvage sur les routes de promenade. Qu'est-ce qui pousse à ce moment-là? Tiens, ça j'aime bien, j'aimerais pourquoi pas essayer de le faire pousser au jardin. Donc un long moment d'observation, et là j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais
après l'observation peut-être, après l'observation l'action,
après l'observation l'action, avec quand même des règles de base de jardinier. Moi je trouve qu'il est bon de commencer son jardin à l'automne. Effectivement, là c'est le bon moment pour préparer la terre, sans rentrer trop dans la technique, mais préparer la terre et bien choisir ses plantes. Effectivement, courir les foires de fête des arbres qui sont hyper sympas pour manger des marrons chauds et boire un petit thé. Allier le plaisir à tout ça, faire des bonnes rencontres avec des pépiniéristes. Ça aussi, c'est très important. C'est parler avec les gens locaux qui sont quand même les meilleurs témoins pour nous aider à passer à l'acte. Et puis, prendre le temps de planter ces plantes, les laisser s'enraciner, leur donner beaucoup d'eau et les laisser tranquilles l'hiver, nous aussi l'hiver. Comme ça, on peut choisir nos graines pour le printemps et l'été à venir. Et c'est ce que je rejoins ce que tu disais, Lucille. C'est pareil. Hein, et ne pas s'attendre à ce que le jardin soit beau, comme on l'imagine, à la saison d'après. Il faut du temps. Il faut plusieurs années.
Oui, il faut raconter que donc il y a dans ce livre-là des textes qui sont presque des moments un peu de récit, puis après des moments beaucoup plus pratiques avec des photographies. Vous dites que vous aimez bien voir arriver l'hiver, d'une part parce que vous savez que ça va pas durer, que les lumières comme ça glaciales du petit matin sur la Camargue, il faut les attraper parce qu'elles ne seront pas longues, et que dès que février va arriver, en fait rapidement la chaleur va revenir. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'hiver au jardin, Marie Varenne?
Alors déjà, on se repose en tant que jardinier, c'est pas mal. On commande ses graines, c'est ce que j'ai vite évoqué tout à l'heure. Comme un catalogue de jouets, nous, c'est pas Noël, c'est pas les soldes, c'est les catalogues de graines qui font rêver. Là, il faut choisir les espèces.
Sachant que vous ne travaillez que sur des fleurs, ce qu'on appelle locales.
Oui.
Et qu'est-ce que ça change dans les graines, par exemple? C'est-à-dire, vous n'allez pas planter dans votre jardin des graines qui viennent de Hollande?
Alors, si, il y a des graines qui viennent de Hollande, parce que quand même, la force, il y a une grande puissance de la Hollande sans passer par la fleur coupée. Il y a des graines qui viennent par là. Celles que je choisis, non, mais il y en a beaucoup quand même. Mais, par exemple, je vais pas choisir de planter un hortensia au printemps prochain. L'hortensia, je vais le laisser à la Bretagne, à la Normandie, ou à des endroits bien, bien ombragés.
Qu'est-ce qui se passe en hiver pour vous, Lucille Chapsal, du côté des fleurs sauvages?
Alors, du côté des fleurs sauvages, en ce qui me concerne, j'essaye de faire un peu plus d'illustrations botaniques parce que, justement, c'est une saison un peu plus calme. Une fois que j'ai récolté un petit peu de bardane, de consoude, enfin les racines pour faire mes potions ou de la cuisine sauvage, c'est vrai que c'est la période de repos végétatif, en fait, l'hiver. Donc, bien sûr, il y a des plantes ou même des inflorescences sèches à observer si on veut faire un petit peu d'identification et de botanique. Mais moi, j'adore faire de l'illustration botanique. Et donc, du coup, je m'installe avec une tisane, je mets une musique douce et puis je fais de l'aquarelle. Et ça m'apporte beaucoup.
Et alors, concrètement, vous faites de l'aquarelle à partir, mon lapsus le trahit, des photographies que vous avez prises en promenade ou des plantes elles-mêmes?
Je fais les deux, mais c'est vrai que c'est toujours plus simple de partir d'un échantillon, d'un vrai échantillon, on a le volume. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de reproduire ce qu'on voit et de représenter la 3D. Alors que si on a une photographie, même si on a les couleurs, on n'a pas forcément on n'a pas forcément la 3D. Et puis ensuite, on peut pas prendre sa loupe pour regarder de près les petits poils, les nervures, etc. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est d'aller au plus près du détail
de l'anatomie de la plante.
D'autant que vous le racontez lorsque vous donnez toutes ces techniques de reconnaissance des fleurs sauvages, Lucile Chapsal, justement leur abcès, la manière dont ils sont ou pas rugueuses, est-ce qu'elles ont des feuilles petites ou grandes, est-ce que quand on retourne les feuilles c'est comme si c'est comme ça, la taille exacte de la fleur, sa couleur, tout ça c'est une possibilité de lire, j'y reviens encore, hein, de lire le végétal, de l'identifier. Ça veut dire que peindre ou dessiner, c'est s'approprier aussi tout ce sens de l'observation que vous pourrez mettre à profit plus tard dans les sentiers ?
Oui, absolument. Et je pense vraiment que rencontrer les plantes, ça passe par les sens, que ce soit pour les peindre ou pour les cueillir. Il faut les sentir, il faut les toucher, il faut même parfois les écouter. J'ai une amie cueilleuse qui disait que les poils des plantes ne font pas le même bruit selon si on touche la feuille de la bourrache.
Et donc elle les reconnaît à l'oreille ?
Oui.
Waouh.
Donc en fait, c'est vrai qu'on peut pas... Enfin voilà, c'est quelque chose qui se vit avec le corps.
Donc l'hiver, on prépare son corps à aller se promener dans les sentiers en dessinant. Alors ici, au Book Club, on a des auditeurs, des auditrices, des lecteurs et lectrices qui nous envoient des questions. Aujourd'hui, c'est Clémence qui aime beaucoup l'objet herbier. C'est un objet qui lui fait penser à Proust, à Colette, mais aussi à Edith Holden. Elle nous fait une sorte de conseil de lecture.
Bonjour, bonjour, le Book Club. Lorsqu'on me parle d'herbier, évidemment, je pense à Marcel Proust, qui m'a donné envie d'apprendre le nom des fleurs, à Jean-Jacques Rousseau et évidemment à Colette. Mais mon cœur, lui, va vers Edith Holden. Au tout début du XXe siècle, elle a écrit un journal champêtre, dans lequel elle décrit et dépeint la flore et la faune de la campagne anglaise au fil des saisons. Elle commence le 1er janvier, elle termine le 31 décembre. Elle nous raconte toutes ses balades, toutes ses rencontres avec la nature. Elle décrit les fleurs, les oiseaux, les arbres, les plantes, les œufs des oiseaux, et elle les nomme. Elle a également ajouté des vers, des poésies de femmes et d'hommes qui lui faisaient penser à chaque saison. Quel bonheur que de la retrouver au début de chaque mois pour voir ce qu'elle voyait et comparer avec ce qu'on voit aujourd'hui. Elle a peint tout ce qu'elle a vu, et ses aquarelles sont également dans ce journal. Je vous souhaite un très beau voyage avec elle.
Janvier 1906. 1er janvier, jour de l'an, clair et beau, froid vif. 5 janvier, violent coup de vent et pluie du sud-ouest. Explore un petit bois sur la berge du canal pour chercher des feuilles de violette. En déplaçant quelques feuilles mortes, au pied des arbres, j'ai découvert un pied d'arum sauvage, dont le fourreau blanc commençait à sortir du sol. En ouvrant la gaine, j'ai vu nettement les feuilles jaunes pâles tachées de noir, étroitement enroulées les unes sur les autres et si bien rangées sous la pellicule blanche. Beaucoup de bourgeons de feuilles, de sorbiers ont éclaté en touffes vertes. 12 janvier, aperçu plusieurs poules d'eau pâturant dans un champ nouvellement labouré, pas très loin d'une mare. 14 janvier, grosse tempête de vent et de pluie. 18 janvier, aujourd'hui, j'ai vu un chêne étrange dans un champ près du parc. De loin, on aurait dit que la moitié de l'arbre était morte et l'autre moitié couverte de feuilles d'un vert brillant. De plus près, le tronc principal et deux des grosses branches sont d'une espèce portant des cupules moussues et de grandes feuilles profondément échancrées mais caduques. C'est un chêne vert ou un chêne liège, couvert de feuilles qui surgit du sommet du tronc et forme l'autre moitié de l'arbre. La jonction des deux troncs est à peine visible.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Alors moi, je ne connaissais pas du tout ce journal champêtre d'Edith Holden, un journal donc de 1906 qui nous est suggéré par l'auditrice Clémence, que je remercie au passage. Est-ce que vous avez comme ça des herbiers de référence, des herbiers que vous aimez regarder, Marie Varenne ?
Je n'ai pas d'herbier de référence, mais dès que je tombe sur des planches botaniques, je suis assez fascinée. c'est un monde qui est pas forcément accessible à tous, parce que souvent des noms en latin très 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 précis et peuvent parfois faire peur, mais en tout cas l'idée du livre c'est ça justement, c'est n'ayons pas peur, soyons juste attirés par la beauté de ces dessins ou de ces plantes en vrai et allons-y, plongeons dans ce monde merveilleux, lançons-nous.
Oui, parce qu'il y a les noms à chaque fois, à la fois par les photographies de Sophie Mouterer ou à la fois par les dessins de Clémentine Dupont-Avis, on a quand même cette idée du carnet, cette idée.
Ah, il faut.
Oui, cette idée de, quand même, de l'herbier. Lucile Chaptal, de la même manière, dans votre livre Fleurs sauvages, on sent que ce livre-là, le nom des plantes, c'est quelque chose qui est important au-delà même de la technique de repérage ou de la technique d'observation.
Oui, tout à fait. Le nom des plantes, ça permet de les faire exister en tant qu'individu propre. Savoir nommer, c'est savoir identifier et donc regarder, comprendre qui on a en face de soi. Comme nous sommes des Homo sapiens, eh bien toutes les espèces ont ce qu'on appelle un nom binominal, c'est-à-dire un nom de genre et un nom d'espèce. Et c'est vrai que c'est une langue qui peut sembler un petit peu ardue, aride au premier abord, mais c'est un langage
ultra poétique. Vraiment, c'est vrai.
Alors
moi, je suis pas du tout une spécialiste des herbiers, mais je pense par exemple à celui d'Emily Dickinson. Il y a quand même quelque chose au-delà des dessins ou des photographies dans vos livres à vous. C'est un poème de savoir nommer les fleurs, il y a quelque chose d'agréable, quoi. Donc on peut aussi le tourner de cette manière-là. Vous choisissez par exemple toujours de mettre le nom en latin, ce que je crois que vous n'avez pas fait, Marie Varenne.
Non.
Lucile Chaptal, ça existe dans votre Fleur sauvage, il y a toujours le nom en latin.
Oui, alors ça fait l'objet d'une discussion avec non seulement l'éditrice, mais le directeur de collection, qui s'appelle Raphaël Sané, et qui est naturaliste. Et donc en fait, comme cet ouvrage s'inscrit dans un corpus, c'est-à-dire qu'il y a 6 opus thématiques sur les arbres, les champignons, les insectes, etc., il a fallu décider, est-ce qu'on met le nom vernaculaire ou est-ce qu'on met le nom latin ? Et donc, on a choisi d'être précis et de mettre le nom latin. Mais c'est vrai que de plus en plus, on utilise aussi le nom vernaculaire. Ça dépend aussi de l'usage qu'on veut faire.
Et à qui on s'adresse. On peut très bien aussi avoir d'autres visions du public qui va s'emparer de vos différents livres. Alors, peut-être on rentre dans le dur, Lucile Chaptal. Les noms, ça sert aussi à classer. Et une partie de votre livre s'attache à cela. J'ai bien aimé la comparaison avec un grand meuble. Est-ce que vous voulez bien essayer de le faire comme ça à l'oral pour nos auditeurs?
Ce grand meuble. Allons-y. Effectivement, j'ai dessiné une grande armoire. C'est telle que je me représente la classification du règne végétal. Il faut imaginer pour chaque règne. Donc nous faisons partie du règne animal, et donc pour les plantes, il y a le règne végétal, donc qu'on appelle plantae en latin. Et donc dans cette grande armoire, on a plusieurs niveaux de rangement. Donc il faut imaginer des grands compartiments dans lesquels il y a des plus petits, et puis jusqu'à avoir des tout petits tiroirs. Donc, faut imaginer.
Même dans les tiroirs, des toutes petites enveloppes.
Des toutes petites enveloppes. Et puis, à la fin, dans les enveloppes, donc là, il y a sept tiroirs, qu'on appelle des taxons. À la fin, il y a les espèces. Et une espèce, c'est quoi? Eh ben, en fait, le dernier classement, et donc ce sont des individus qui peuvent se reproduire entre eux. C'est ça qu'on appelle espèce.
Pourquoi c'est important de savoir nommer les fleurs, Lucile Chaptal?
C'est important de les nommer parce qu'on leur permet d'exister, c'est-à-dire de ne plus faire partie d'une sorte d'univers végétal vert et informe, mais de distinguer tous les individus. Et puis, pour ma part, j'ai vécu l'expérience de voyager au Brésil et de voir parler des plantes avec leur nom vernaculaire en portugais en plus. Donc, c'était cocasse. Et en fait, par exemple, là-bas, sous le terme romarin, donc alecrim en portugais, ils ont plusieurs plantes qui sont pas du tout notre romarin. Et donc, du coup, de savoir
le nom latin, ça permet de mettre tout le monde d'accord entre les Français, les Portugais, etc.
Et au passage, nommer les fleurs, pouvoir les identifier comme des individus à part entière, c'est aussi savoir celles qui sont en danger, celles qu'il ne faut pas cueillir, celles qu'il ne faut pas couper. J'imagine que de la même manière qu'on le fait pour des individus du règne animal, les nommer, c'est avoir le désir de les préserver quand elles ne vont pas bien ou quand elles sont en danger. Lucille Chapsal, Marie Varenne, c'est une dimension qui arrive aussi dans vos livres-là. Vous n'écrivez pas et vous ne publiez pas des livres à un moment complètement, on va dire, jovial pour le vivant, c'est aussi une source d'anxiété, la manière dont tout ce monde se porte. Quand vous observez tous les jours votre jardin, est-ce que c'est palpable cette question-là, Marie Varenne ?
De protéger le vivant.
Protéger le vivant, puis même un peu plus prosaïquement, le réchauffement climatique, par exemple.
Ah bah oui, ça, on le sent tout à fait. C'est, rien qu'en ce moment, l'automne est beaucoup trop chaud.
Et ça a quoi comme impact, par exemple?
Ça a des impacts sur certaines espèces qui ne fleurissent pas, qui ne survivent pas, et qui ne sont plus adaptées à notre climat, tout à fait, oui. Oui, ça.
Travailler les plantes, être près des végétaux, c'est se rapprocher aussi de cette conscience politique-là. C'est-à-dire qu'on, d'une certaine manière, si je parle un peu plus crûment, on n'y échappe pas, quoi.
On n'y échappe pas. On fait un petit point météo tous les matins, hein, comme nos aïeux. Mais oui, tout à fait, on assume. Et oui, on vit en fonction de ça, des intempéries, des températures qui touchent à la fois le jardin, mais nous aussi physiquement. L'été dernier, par exemple, a été très difficile.
Pour travailler,
a été très difficile. On a envie d'abandonner, on a envie de réadapter parfois nos métiers. Aussi pour s'adapter à ce réchauffement climatique. Quand on fait de la cueillette sauvage, on peut se retrouver parfois, là c'était le cas cette année, au mois de mai, avant qu'il y ait les fortes pluies qui nous sauvent un petit peu, il n'y avait rien dans les fossés. Toutes les herbes attendues n'étaient pas là.
Donc il y a quelque chose de très fort, je pense que c'est important que vous parliez du travail, donc on parle de nommer, on parle de ce plaisir comme ça d'identifier le vivant. Un jardin, puisque c'est aussi votre métier, Marie Varenne, c'est de produire des fleurs, de les couper, de fabriquer des bouquets, de faire des compositions florales ou végétales, c'est du travail solitaire, du travail collectif, comment ça se passe?
C'est les deux. Mais merci de préciser que c'est du travail, parce que il n'y a pas que le plaisir d'observer les plantes et de déambuler
et de composer,
les nommer. La composition, oui, c'est quand elle est finalement hors travail, juste pour le plaisir, et c'est l'objet du livre, donc tant mieux, elle est très agréable. C'est un moment assez méditatif où, en fait, le fait, je pense, d'utiliser ses mains et de travailler du vivant apporte beaucoup de bien, régénère énormément et appelle à la spontanéité et avec beaucoup de liberté. Donc, il y a beaucoup de joie. Mais oui, c'est beaucoup dans le cadre de moi, de ma profession, c'est quelque chose de beaucoup plus... mécanique.
Et du travail de la terre, un travail
et
paysan.
Et un travail physique paysan de la terre aussi, en amont.
On entendait la lecture faite par Léa de ce journal champêtre d'Edith Holden. C'est une femme anglaise, on pourrait presque être du côté des clichés. Vous êtes deux femmes, vous publiez deux livres sur les fleurs, vous remerciez des bandes de femmes qui vous accompagnent, qui en cueillette sauvage, qui pour venir travailler au jardin. Qu'est-ce que ça nous raconte? Est-ce qu'il faut en faire quelque chose de ce rapport entre le féminin et le jardin, ou au contraire, il faut pas du tout essentialiser? Est-ce que c'est intéressant, Lucille Chapsal, de se poser cette question?
Vous me prenez un peu au dépourvu, mais
vous pouvez témoigner juste par l'expérience, c'est-à-dire vous avez un collectif de cueilleuses,
oui.
De paysages, il n'y a que des femmes qui marchent avec vous. Qu'est-ce que vous y trouvez peut-être?
Effectivement, c'est vrai que je le remarque à présent, j'ai été plutôt entourée de femmes, que ce soit au jardin pour concevoir le jardin associatif qu'on a à Panchara ou avec les cueilleuses de paysages. Est-ce qu'il y a un lien profond j'avais envie de parler d'écoféminisme, alors je sais pas si c'est...
Pourquoi pas ?
Voilà, le bon moment pour en parler, mais... j'ai l'impression que en tout cas, en tant que femme, je vais parler pour moi, j'ai l'impression de vraiment vivre les saisons, de sentir au plus profond de moi, en fait, le végétal. Et c'est vrai que même mes lectures de l'été, ça a été des lectures de femmes. J'ai lu Dans la forêt de Jean Eglant et puis En cabané de Gabrielle Filtoshiba. Et c'est vrai que en la voyant en interview... être très très émue par voilà les questions de réchauffement climatique, etc. Je me suis dit que peut-être que on avait nous les femmes une sensibilité avec le monde végétal.
Celle qui travaille avec vous au jardin, Marie Varenne, elle s'appelle comment?
Alors on a créé ce groupe en fait par constat. C'était pas un souhait au début. Moi j'ai trouvé ça formidable cette force féminine, donc je pense qu'on peut en parler, c'est important. Elle est venue naturellement. C'est le fait de peut-être de montrer mon métier à attirer d'autres personnes qui devaient partager les mêmes valeurs. Et puis le groupe est passé d'une personne à deux, puis trois.
Concrètement, c'est des gens qui viennent vous aider au jardin pour travailler?
Tout à fait. Ce sont des femmes qui sont actives et qui prennent une journée dans leur leur temps pour prêter main forte en tant qu'amie, mais pas forcément, pour avoir le plaisir de plonger ses mains dans la terre, se reconnecter, je pense, se libérer la tête. Et à un moment, on s'est retrouvées toutes les fesses en l'air. Une en désherbant, l'autre en bêchant, l'autre en semant. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ça, quoi. On est les fesses en l'air. Et on a créé un groupe, on s'appelle... Et les fesses en l'air se réunissent. Et on est ouverte à d'autres paires de fesses. Et on se dit souvent, mais les hommes sont les bienvenus. Mais les hommes ne sont pas là. Donc il y a quand même quelque chose.
Oui, il y a quelque chose de la sororité que vous célébrez à la fin de votre livre. Et qu'on entend aussi dans le nom du collectif des cueilleuses, Lucile Chapsal. Est-ce que, je sais pas, on imagine, c'est peut-être aussi cliché, mais des temps de parole quand on n'est pas toujours en train de lire les paysages et d'identifier des végétaux. Donc j'imagine que c'est aussi un temps pour parler.
Tout à fait.
Il y a quelque chose, oui, je sais pas, et je pense à tous ces journaux. Alors bien sûr, il y a le fameux herbier de Proust qui a été évoqué par notre auditrice Clémence, mais d'ailleurs il y a peut-être un côté très féminin chez Marcel Proust. Il y a quand même cette idée-là d'un rapport aux fleurs, quoi.
Mm-hmm, tout à fait. Je rejoins un petit peu ce que tu as dit, Marie, sur les temps de jardinage collectif. On se retrouve nous aussi dans le jardin associatif à Pontcharra, plutôt des femmes en fait à désherber, puis en fait à échanger sur la vie, sur les problèmes qu'on rencontre, et donc je pense que ça crée vraiment un moment de communion dans un lieu en faisant une action qui est de travailler la terre.
On va écouter une archive du philosophe Michel Foucault. Vous allez voir, il fait une sorte de grand et rapide au tapis volant parallèle entre le jardin et le roman et l'hétérotopie.
Peut-être le plus ancien exemple d'hétérotopie serait le jardin. Le jardin, création millénaire, qui avait certainement en Orient une signification magique. Le traditionnel jardin persan est un rectangle qui est divisé en quatre parties. Or, si on songe que les tapis orientaux étaient à l'origine des reproductions de jardins, au sens strict du terme, des jardins d'hiver. On comprend la valeur légendaire des tapis volants, des tapis qui parcouraient le monde. Le jardin, c'est un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique, et le tapis, c'est un jardin mobile à travers l'espace. Le jardin, depuis le fond de l'Antiquité, est un lieu d'utopie. On a peut-être l'impression que les romans se situent facilement dans des jardins. C'est qu'en fait, les romans sont sans doute nés de l'institution même des jardins. L'activité romanesque est une activité jardinière.
Épée. Une archive de Michel Foucault en 1966, on y revient à ce parallèle entre la lecture, l'écriture, la lecture du paysage ou l'écriture d'un jardin. Quand vous entendez ça, le jardin comme un lieu utopique, comme un lieu pour l'imaginaire, alors sans enlever toute la dimension du travail difficile, mais est-ce que ça vous parle et qu'est-ce que ça vous raconte, Lucile Chapsal?
Oui, c'est vrai que le jardin, ça peut évoquer le jardin d'Éden, c'est-à-dire ce tout premier jardin originel dans lequel on se sent bien, qui est une sorte de lieu à la fois nourricier, réconfortant, etc.
Et le jardin intérieur, en vous écoutant, je me dis, c'est ça aussi, l'imaginaire. Quand vous écrivez, Marie Varenne, que avant de planter, avant de voir se réaliser un jardin, il faut l'imaginer. Il faut se dire, ah oui, si je mets ça là, si je mets ça là, si je crée un massif, ici, ça va faire ça. Faut d'abord se projeter.
Il faut rêver. Il faut rêver d'abord. Effectivement. Et moi, je suis plutôt pour partir du plus grand rêve et après venir en entonnoir au réalisable concrètement. Mais c'est rêver cet endroit. Qu'est-ce qu'on veut y faire? Qui va venir y vivre?
C'est vrai que Michel Foucault parle d'utopie, mais il y a un peu ça quand même dans le jardin, non?
Tout à fait. Il ne sera pas aménagé de la même manière. Et c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Combien de temps je veux y passer? Est-ce que je veux être moi toute seule ou travailler, effectivement être ouvert à d'autres personnes? Est-ce que je veux pouvoir y prendre des repas? Est-ce que je veux y déambuler? Est-ce qu'il y aura des animaux, des enfants? Toutes ces questions, oui.
Elles rentrent, donc c'est presque créer une sorte de mini-société, je pense, peut-être pour conclure, Lucie de Chapsal, à la manière dont vous transmettez certains savoir-faire à des jeunes paysagistes. Finalement, ils composent des lieux, ces jeunes gens-là, et ils vont en écrire, même parfois pour des espaces publics. C'est important, la question quasi politique que pose Michel Foucault à l'égard du jardin.
Oui, absolument. Et c'est vrai que je rejoins ce que tu disais. Il y a cet aspect vraiment utopique, c'est-à-dire se permettre d'imaginer une multitude d'activités au jardin. Et puis la question très concrète de ce qu'on va y faire, de l'entretien du lieu, de sa résilience, accueillir le sauvage, ne pas faire tabula rasa, mais plutôt aller observer déjà tout ce qu'il y a. Et c'est quelque chose qui est vraiment la première étape, c'est celle du diagnostic avant de pouvoir dessiner un projet.
Il y a ces deux dimensions-là dans vos deux livres, Lucile Chapsal et Marie Varenne, quelque chose de très concret et quelque chose de très utopique, de très imaginaire. J'en redis les titres. Fleurir son jardin, composer ses bouquets, c'est paru aux éditions First. Et Fleurs sauvages, paru dans la collection Les carnets du scarabée aux éditions Tana. Merci beaucoup à toutes les deux. Mais restez, on a plein de choses à vous raconter encore.
Merci.
On fait une pause côté langage des fleurs pour parler multiplicité des langues et des langages. On va se faire l'écho aujourd'hui un peu exceptionnellement d'un beau numéro hors série que le magazine Courrier International consacre aux langues dans le monde. Les langues, leurs variétés, leurs usages. Pour en parler avec nous par téléphone, Hassina Meshaï, qui est chef du service Afrique du Courrier International et qui a coordonné ce numéro. Bonjour Hassina.
Bonjour.
On imagine que le Courrier International est sensible évidemment à la question des langues. On le rappelle, le principe c'est de rassembler des articles de la presse du monde entier qui sont traduits pour que les lecteurs francophones puissent en profiter, puissent les lire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pourtant motivé assez particulièrement l'envie de faire ce hors-série spécial à Sina?
Oui, tout simplement parce que nous avions constaté dans la presse internationale que ce sujet des langues faisait sens et en quelque sorte nous faisait signe. Je veux dire par là que nous avions constaté une convergence d'articles qui montraient que les langues étaient tout aussi bien une question géopolitique, politique, sociétale que technologique, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle qui, évidemment, pour un journal comme Courrier International, nous a particulièrement. Et c'est tout cela qui a nourri notre réflexion.
Vous voulez dire que, par exemple, en parlant de l'intelligence artificielle, c'est le rapport à la traduction, le fait qu'il y ait des machines qui puissent prétendre à faire ce travail ?
Absolument. Nous avons quelques articles, notamment qui abordent cette question de la traduction et de l'effort qu'il faut pour apprendre une langue. Tout cet effort qui fait au fond la joie d'apprendre une langue et que l'intelligence artificielle, en quelque sorte, nous retire par son côté
mécanique, artificielle et machine. Alors au sommaire du numéro, on voyage dans beaucoup de territoires du monde. On trouve par exemple le témoignage d'un écrivain ukrainien russophone qui s'interroge sur le fait de savoir s'il doit apprendre le russe à son enfant qui va naître. C'est une question qui a été prégnante, la question de la langue ukrainienne et de la langue russe depuis la réouverture de ce conflit. Il y a un autre article sur la manière dont Pékin cherche à restreindre l'usage du cantonais en Chine. Il y a aussi un portrait de Algonstein, qui est la traductrice de la grande écrivaine Elena Ferrante. Plein de choses encore, hein, mais vous vouliez évoquer avec nous la question des langues en Afrique et notamment le cas particulier du Swahili. Qu'est-ce qui se passe avec cette langue ?
Ben écoutez, si en Afrique, la plupart des pays africains ont gardé la langue du pays colonisateur comme langue officielle, on a constaté un véritable essor des langues dites nationales qui aspirent à être tout simplement plus visibles. C'est le cas du Wolof au Sénégal et du Swahili dans une grande partie de l'Afrique anglophone. Et cette langue qui est une sorte de mélange de langue bantoue et d'arabe est en passe tout simplement de devenir la lingua franca africaine, puisqu'elle est forte d'environ 200 millions de locuteurs. Et le Swahili, en Afrique de l'Est et en Afrique anglophone de façon plus large, crée aussi un sentiment d'unité et de continuité qui pourrait se traduire à terme, on le sent dans les articles traduits, par plus de coopération, voire d'intégration régionale.
Eh ben merci beaucoup Hacine Amecha, il faut vraiment aller lire ce hors-série du Courrier international, La bataille des langues. On mettra évidemment la référence sur le site du Book Club, franceculture.fr. Merci Hacine d'avoir été au téléphone avec nous.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
15h50 sur France Culture, c'est l'heure où l'on reçoit de la visite dans le Book Club et tous les mercredis, c'est vous Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Pour votre chronique Lecture Jeunesse aujourd'hui, vous nous parlez d'une histoire qui parle de la façon dont on fabrique une histoire.
Oui Marie, aujourd'hui je vous parle d'un livre qui se présente comme une expérience, un livre qui se demande, et ce pour rester dans la thématique botanique de l'émission d'aujourd'hui, comment ça pousse une histoire pour enfants, avec quel engrais, un livre qui fait d'une réflexion métalittéraire, donc le sujet même de l'histoire qu'il propose à son lecteur et même la matière première de son intrigue.
Intriguant cette intrigue, c'est quoi alors ce livre?
Il s'appelle Happy End ce livre, sous-titre Le retour du petit bonhomme grognon. Il est signé Christian Voltz et apparu à l'école des loisirs. Il est destiné aux enfants disons à partir de 6 ans. Pourquoi le retour du petit bonhomme grognon, me direz-vous Marie? Eh oui, eh bien parce que dans ce livre, comme dans un précédent intitulé Le livre le plus génial que j'ai jamais lu, Christian Voltz met en scène un petit bonhomme qui râle et bougonne, s'adressant à nous et à l'auteur du livre directement, commentant, jugeant, réorientant l'histoire que l'auteur est en train de nous raconter. La saveur du livre tient beaucoup à la personnalité de ce petit bonhomme. Permettez-moi donc de vous lire de quelle façon il nous accueille dans l'album. Il faut dire qu'il est petit, doté d'un gros nez, de toutes petites jambes et d'un immense chapeau.
« Salut la compagnie !» dit-il pour commencer. « Aujourd'hui, je vais vous apprendre un truc trop fort. Comment faire un livre pour les enfants avec le génial Christian Voltz. Vous vous attendiez pas, hein ?» Christian Voltz dit à tout le monde que c'est hyper dur à faire. « En vrai, ça se fait les doigts dans le nez !» Et le petit bonhomme dénonçait les trois règles à respecter à tout prix si l'on veut réussir.
Règle numéro 1. Utiliser des mots simples, car les enfants, c'est bien connu, sont un peu bêtes, ils ne comprennent pas grand-chose. Règle numéro 2. Ne surtout pas parler de sujets graves, car les enfants pleurent vite comme des madeleines. Il vaut donc mieux leur parler de petits lapins tout doux ou de licornes multicolores. Règle numéro 3. Terminer par un happy end. Une fois ceci posé, le petit bonhomme ordonne à l'auteur de commencer son histoire et c'est ainsi que l'histoire dans l'histoire commence, à savoir le fabuleux destin de Jean, Pierre et Jean-Pierre.
Il est vraiment très très drôle ce monsieur.
Absolument. Or, Jean, Pierre et Jean-Pierre, je vous le donne en mille, eh bien ce sont trois akènes de pissenlit. Qu'est-ce qu'un akène de pissenlit? Comme nos invités aujourd'hui le savent bien, et comme on l'apprend, nous, grâce au petit bonhomme ronchon, les akènes de pissenlit, sont en gros ces graines, ces petites étoiles blanches, vous savez, qui s'envolent au vent. Tout au long du livre, il y aura deux niveaux de lecture conjoints. Le niveau de l'histoire de Jean, Pierre et Jean-Pierre, les trois akènes de pissenlit, et le commentaire, placé en bas de page, du petit bonhomme ronchon, sorte de Jiminy Cricket énervé, qui donne son avis sur la qualité de l'histoire en cours. Or, très vite, le petit bonhomme trouve l'histoire des trois akènes tout à fait nulle. Rendez-vous compte, l'auteur n'a respecté aucune des trois règles énoncées, puisque Jean, Pierre et Jean-Pierre se sont fait emporter par une tempête loin de leur mère, la tige, et que le premier a été avalé par un pigeon, le deuxième précipité dans l'océan et le troisième jeté vivant dans la pipe d'un facteur. L'auteur devra donc redoubler d'imagination pour apporter de nouveaux rebondissements et nous mener vers le happy end attendu. Tout le sel de la lecture tient dans l'interaction à l'œuvre entre les membres de ce trio formé par le petit bonhomme, le lecteur, nous et l'auteur. Parfaite adéquation en outre entre l'intrigue, le propos du livre et sa forme, car si le bonhomme est dessiné, l'aventure des pissenlits nous est, elle, racontée sous forme de collages qui font intervenir une myriade de matières, vrais feuillages, cartons, papier, objets divers, métaux. Une histoire faite de briques et de brocs, donc littéralement et dans le meilleur sens possible du terme.
Bon, mais finalement, il y avait une promesse à ce livre et à votre chronique, qui est par ailleurs une masterclass, hein, on attend une sorte de podcast, Mathilde Wagman. Est-ce que ça répond à la question initiale que vous posiez, à savoir comment ça pousse une histoire pour enfants?
Bon, pas exactement. C'était un peu une fausse promesse que je vous faisais, mais ce livre, il est formidable parce qu'il rend saillant cette chose à la fois évidente et très complexe au fond, qui fait qu'un livre, c'est avant tout, une rencontre entre un auteur et son lecteur, quel que soit son âge. Et qu'il y a un grand plaisir à se trouver au cœur même de sa lecture, conscient de ce phénomène étrange par lequel, derrière l'histoire qu'on est en train de lire, se cache cette entité mystérieuse qu'on appelle donc l'auteur. La passion pour la littérature commence aussi, me semble-t-il, par ce plaisir-là.
Oui, c'est toujours fou d'apprendre à un enfant que la personne qui a dessiné, fabriqué ou écrit ce livre est vivante, est une vraie personne. C'est magnifique. On rappelle le titre du livre ?
Happy End de Christian Voltz à l'École des loisirs.
Et on écoute cette chronique au casque, je pense. Lecture jeunesse sur franceculture.fr. Très grande forme de Mathilde Wagman qui va donc pouvoir écouter le grand jeu des pages musicales. Je rappelle le principe, tous les jours, en fait, on pioche dans une grande réserve de vos trouvailles de lecture. Vous êtes tranquillement au jardin, un jour ça arrivera, en train de lire un livre. Vous voyez dans un paragraphe l'évocation d'un air musical, vous prenez en photo ce paragraphe, vous nous l'envoyez ou bien à lebookclub@radiofrance.com ou via la communauté du Book Club sur Instagram et nous lisons des extraits chaque jour. L'auditrice qui nous envoie l'extrait, c'est Marceline. Elle a trouvé ça dans un texte de Mayra Santos Febres, publié aux éditions Zulma. Le roman s'appelle Sirena Selena. Dans l'extrait choisi, la chanson apparaît par ses paroles. Les paroles entrecoupent le paragraphe comme ça en scandant cette scène de concert. Mais je ne parle pas d'un mot d'espagnol. Donc j'ai coupé tous les passages qui font normalement apparaître cette chanson. Parce que sinon ça aurait été vraiment moins beau. Et la très belle chanson s'appelle Nave sin rumbo. Maintenant, elle ouvre la bouche. Maintenant, l'ayant ouverte, elle avale tout l'air de la salle. Maintenant, les iris blancs se ternissent et presque fanés, ils dévaillent devant la poitrine affamée de Selena. Maintenant, sa lune s'approche du balcon, ouverte. L'apocalypse va avoir lieu. Sirena s'arrête net au milieu de l'escalier, elle chante. Mais tout est suspendu, tout. Le public ancré dans son incertitude, dans sa double perte temporelle. On n'entend plus un seul cœur, plus une goutte de sueur contre la peau. Pas une cellule ne se multiplie tandis que Sirena chante. Le temps obéit à sa voix. Sa voix est la seule preuve que la vie passe. Sa gorge très fine articule et alors, l'air s'échappe.
La fuerte tempestad de eso que llaman amor. Tu lobo de mar, ¿hacia dónde esta nave has de llevar? Sin preocuparte apenas qué rumbo tomaré.
Au son aujourd'hui, c'était Audrey Guélil à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Léa Weissgruss, Jeanne Aléos,
Didier Pinault, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Alexandre Alaï-Begovitch et Valentin Rémy. Vous pouvez réécouter l'émission Le Book Club sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous écrire en cliquant sur Contacter l'émission. Et je répète, lebookclub@radiofrance.com pour envoyer les questions, pour envoyer la participation au grand jeu. Et l'Instagram du Book Club, Le Book Club France Culture.